Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un comédien connu de tous, extraordinaire de subtilité et de retenue dans le film Alice et le maire de Nicolas Parisère qui sera en salle demain. Dialoguez avec lui au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Fabrice Lucchini, monsieur le maire, bonjour.
Bonjour monsieur Demorand.
Et merci d'être au micro de France Inter. Dans ce film donc, vous jouez le rôle de Paul Terrano, le maire socialiste de Lyon. Il est l'auteur d'un maître livre qu'il a signé mais pas écrit et à peine lu, qui est intitulé, j'adore le titre, Encore et toujours plus de progrès, point d'exclamation, sous-titre, le véritable progrès, c'est celui qui change le cours des choses. Sic. Alors vous voir incarner un homme politique de gauche, socialiste, progressiste, soucieux du bien commun, a été, je dois le dire, particulièrement jouissif pour moi. Ça a dû être un sacré rôle de composition pour vous.
C'est le paradoxe, parce que tous les mots qui sont défendus par ce maire sont extrêmement éloignés de ma petite personnalité. Mais le paradoxe du comédien, heureusement, c'est qu'il témoigne pas que de lui constamment, sinon ce serait pitoyable. Donc cet homme est de gauche, il croit au progrès, il croit à l'action, il a des lectures qui ne sont pas les miennes. Et la réussite, c'est la dialectique entre un metteur en scène qui lui est plutôt, on voit, du bon côté de la gauche, qui est vraiment pas un réac, pas un conservateur, et la qualité du texte.
Mais manifestement, le réalisateur est aussi un manipulateur sadique qui avait envie de vous voir dire ces mots, ces grandes envolées lyriques sur le progrès.
Alors, je crois pas, c'est que simplement, il est de la tradition, il a été élève d'Éric Rohmer, il est un peu d'une tradition où l'écrit, au bon sens du terme, au sens de Pagnol, au sens de Guitry, est la priorité, et il a eu envie de me donner ce rôle, mais il n'y avait aucune perversion.
Bon. Et les dialogues sont particulièrement jouissifs. Ouais. C'est un homme qui a donné sa vie entière à la politique, on le découvre fatigué, vidé, sans énergie, sans idée, pour le dire d'un mot, dépressif. Il dit à Alice, jouée avec grâce par Anaïs de Moustier, la jeune normalienne philosophe, il lui dit « Avant, j'avais 25, 40, 50 idées par jour, je les notais dès le matin, et puis j'ai fait de la politique. Et puis je me suis présentée à des élections, je me suis réveillée un matin et je n'avais plus d'idées. » La morale de ce film, c'est qu'il faut choisir, faire de la politique ou penser, on ne peut pas faire les deux.
Alors, juste deux choses. La première, c'est que lui n'a plus d'idées. Et alors, à cet endroit de sa personnalité, pour un acteur, c'est extrêmement important et jouissif de jouer en creux. Mais autour du maire, ils ont énormément d'idées. Ce ne sont que des idées comme la caricature, je dirais presque muréienne, de ce qu'on appelle les professionnels de l'événementiel.
Lyon 2500. C'est 2500 ans d'histoire d'hier qui nous aident à relever les défis de demain.
De demain. Toute cette espèce de sécrétion absurde de la médiocrité du ce qu'on peut appeler des professionnels de l'événementiel. Il y a cette philosophe qui va arriver parce que cet homme aurait pu aller voir un psychanalyste puisqu'il va pas bien. C'est pas un film sur la dépression, mais il est vide. Il a l'impression de devenir très bête. Il est mécanique. Il sent qu'il est comme une voiture de course. Il dit, si j'osais une métaphore, je dirais que je suis une voiture de course, mais il y a plus d'essence. Alors il y a encore un peu d'élan. D'accord? Donc, c'est vous la philosophe? Alors la pauvre dit non, mais je ne suis pas philosophe. Comment ça, vous n'êtes pas philosophe? Non, j'ai donné des cours de philosophie et j'adore cette réplique. Vous y connaissez un peu alors? Oui, c'est ça un peu. J'arrive pas à penser, plus du tout. Alors on m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Moi j'aurais bien été dans l'église catholique, mais je n'ai pas la foi. Alors je me suis dit que la tradition philosophique, elle va m'aider. Et ça, c'est très étonnant.
Mais il attend quoi d'elle?
Il attend d'elle, et ce que Parisère attend d'elle à travers la remarquable interprétation de Parisère. Parce qu'en réalité, ils ne sont qu'un. Comme Alceste et Philinte, Alice et le maire ne font plus qu'un cas. Au-delà de la politique, c'est Nelly et Monsieur Arnaud. C'est l'affirmation d'un film qui n'est pas obligatoirement sexué, où on prend pas la meuf sur la table en disant « tu vas jouer, salope ». C'est pas ça du tout. C'est l'érotisation de la rétraction. C'est une histoire d'amour qui n'est pas sexuelle. Mais ce qu'il attend, c'est qu'il attend ce que tous les Français attendent de cette ambition de la littérature et de la philosophie. C'est d'essayer de recomprendre, parce que la politique, la thèse de Parisère, c'est que, et on a envie de dire qu'il a pas tort, ça les mécanise, déshumaniser, c'est un peu un lieu commun. Non, ça les abétit profondément. Comment ils lisent, comment ils écoutent Bach, les insomnies. Moi, j'ai eu une insomnie, c'est pas très grave. J'arrive à France Inter, Léa Salamé, De Morant, tac, tac, on y va. Quelques compliments, Pierre Aski, qu'on a vu une fois à Beaune, où j'ai vendu un tonneau, 400 000, pas pour moi, hein, pour l'hospice de Beaune. Deux, trois personnes, Thomas Legrand, que j'ai connu il y a une quarantaine d'années, dans un dîner, chez un bobo, très impliqué humainement. Tout ça est beau, mais un homme politique, une insomnie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, le film de Parizère, il est jouissif.
Et pas poujadiste. C'est une critique non poujadiste de la politique.
Ah non, absolument pas poujadiste. Et il y a un mec à Lyon qui a voulu faire le malin et désespéré, une sorte de je dirais un non inséré mécontent. Il y a des non insérés contents, mais un non inséré dans le ressentiment nietzschien qui a dit ouais, il y en a marre de faire des films contre le pouvoir et tout ça. Alors, vraiment, Parizère, on peut pas du tout.
Vous parlez de Gérard Collomb?
Ça devait être un disciple, peut-être, de Gérard Collomb.
Parce que Gérard Collomb pensait que le film, c'était lui. En fait, le film n'est absolument pas... Il faut le rassurer ce matin, oui. Ce n'est absolument pas lui.
Symptôme de la folie. T'imagines? Un biopic sur Michael Jackson, il y a des possibilités. Un biopic sur John Lennon, il y a du possible. Mais qu'un mec de la mairie, au culturel de la mairie, dise on va pas les aider à tourner le film parce que il y a des points communs entre Collomb, et d'ailleurs on le sent physiquement, c'est la même famille entre lui et moi, et que qu'Anaïs de Moustier soit la femme, la meuf de Collomb qui est jeune, etc., etc. Donc ils sont fous, c'est l'état de... Il n'y a pas de métier comme l'acteur ou homme politique qui, si tu n'as pas une stabilité psychique exceptionnelle, une vie de famille très importante, des animaux pour ceux qui aiment les animaux et une vie qui te ramène au réel, ce sont des métiers qui rendent complètement cinglé.
Vous l'avez constaté à chaque fois, sur tous les présidents de la République que vous avez connus. On a enterré Chirac hier. Vous l'avez connu, Chirac?
Oui, très très peu. Il est venu au théâtre. Bon, anecdote rapide, on en a tellement parlé.
Trop?
Oh, je ne me permettrai pas d'avoir une opinion là-dessus. Je pense en deux mots que on ne dit pas assez, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie, c'est-à-dire cet homme vivant, aimant les femmes, avec une maman un peu qui tape dur, qui aime pas trop, donc femme classique du dans le temps, qui empêche d'aller tirer partout, donc ça c'est Bernadette, lui, énergie, à convictions successives, comme disait Mitterrand, et énergie, moi je l'ai vu qu'une fois, il est venu écouter La Fontaine, et une telle ambition d'être gentil, une telle volonté de gentil, qui m'a dit une des choses les plus perturbantes que j'ai jamais entendues au théâtre. Il vient écouter La Fontaine, c'était Baudelaire, Nietzsche, La Fontaine, avec beaucoup de La Fontaine. Il vient dans ma loge, j'avais préparé les bières, j'avais appelé mon père, parce que mon père est émigré italien, donc le fait que son fils reçoive le président de la République, c'est de la folie. Il arrive, et moi je lui redéclare ma flamme pour cette langue fabuleuse, qui est ma passion, qui est ma vocation. Il m'arrête, et par gentillesse, je le dis bien, parce qu'après, Nicolas Sarkozy, Balladur, ils l'ont récupéré. Il m'arrête et me dit, attendez, je vous arrête, Lucchini. Vous, le beau temps en anglais, il y a autant de succès. Et c'est pas vrai, monsieur Chirac, malheureusement. Et c'est qu'il voulait flatter mon ego. Et en flattant mon ego, il a dit une chose qui n'est pas vraie, parce que, je vous donne ma parole, aucun acteur, même Michel Bouquet, peut dire le botin en anglais.
Alors donc... on a découvert sur un autre président, excusez-moi de vous interrompre, Fabrice Lucchini, que lors de votre première rencontre avec Emmanuel Macron, vous avez récité tous les deux le début du Misanthrope de Molière. Question de politique et de littérature, pour faire de la politique précisément, il faut être misanthrope ou tartuffe?
Ah, bien joué. Il faut avoir une composante d'hystérie narcissique supérieure aux acteurs, il faut avoir une volonté... Et il faut... Tartuffe, misanthrope, faut pas être misanthrope, parce que misanthrope est très bête. Hein, c'est dans le misanthrope, il y en a qu'un qui est intelligent, c'est Philinte. La rencontre avec Macron, je rassure... Ah, c'est pas que je rassure, le film n'est pas du tout lié à tout ça, mais quand même, la rencontre avec Macron, c'est que je suis rentré, il m'a invité à... Il était ministre à cette époque-là, il m'a invité... Parce que les gens pourraient se dire, mais il passe son temps chez les présidents, il passe son...
On pourrait se dire ça, parce que vous en parlez tout le temps.
J'essaye tous les soirs de défendre un répertoire. Ce répertoire, c'est ce qu'il y a de plus exceptionnel dans la langue, c'est-à-dire le 17e, Racine, La Fontaine en premier, Molière, Corneille, après on va jusqu'à Céline. Si le gars pense que les présidents viennent te voir, il est encore un je serais bête. Ils viennent voir ce qu'est la spécificité absolue de ce peuple, c'est-à-dire la littérature. Même avec l'écrasement américain, même comme dit Nietzsche, quand Nietzsche dit je veux nuire à la bêtise. Tous les soirs à la fin de mon spectacle sur les écrivains parlent d'argent, je dis nous sommes 1200 là et on a essayé d'illustrer cette phrase de Nietzsche. Je veux nuire à la bêtise. Parce que la bêtise, elle est puissante. Elle écrase de tous les côtés. Les chaînes de télévision, les chaînes, à part France Inter, les autres, tout le monde veut écrabouiller les gens dans la bêtise, tu vois. Et puis, quand je suis rentré, j'étais obsédé par Alceste et Philinte. J'ai pas le temps d'en parler, mais ça explique énormément de choses. Je pense qu'Alceste, qui veut qu'on dise la vérité à chaque seconde, est un imbécile, parce que la vérité n'est pas à dire. Quand il dit serait, bon, peu importe, ça c'est un truc trop long à dire. Mais et je suis rentré et j'ai dit cette première phrase, obsédé, je lui dis des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, parce que il lui dit une chose intelligente, Philinte, arrêtez de nous emmerder, mais tout bon quitter toutes ces incartades, le monde par vos soins ne se changera pas. Encore un grand pessimiste, Philinte, hein. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie, et qu'à vouloir dire la vérité à tout le monde. Eh ben, le père Macron m'a demandé le bouquin sans aucune réflexion. Il m'a dit, viens, on y va. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et il m'a fait Alceste, Philinte, Brigitte, épanouie, son élève. Et puis...
Il était bon.
Faut pas les réduire. Il est très bon quand il improvise. Il est un peu prêtre quand il est avec le discours. Ils sont pas très bons en général. Vous avez reçu François Hollande. Hollande, je l'ai déjà dit, est un queutard. Enfin, non, un queutard, c'est une libido en marche.
Oh mon Dieu.
Tu vois, je l'ai dit, comment se fait-il qu'il produit sur des femmes très sexy cet état de, pas d'érection, mais pas loin, envie d'être prise par lui. Bon, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. J'adore Léa Salamé, Nicolas Demorand. Vous m'avez dit, sois pas sérieux, on se détend, c'est une radio intelligente. Moi, j'essaye un peu de mettre, comme disait Céline, il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité, de réserve pour le côté du derrière.
Laissez vibrer l'érotique plutôt qu'aller dans le porno, quoi.
Alors, François Hollande est un homme qui a une libido et qui provoque la libido. Ça l'a fait rire. Il est irrésistible dans un déjeuner. Il est irrésistible dans ses SMS. Et dès qu'il parle, il prend une gravité qui n'est pas sa nature. Nicolas Sarkozy, bizarrement, accordait... Je vous parle en tant qu'oralité, je ne vous parle pas en tant que politicien. Nicolas Sarkozy, bizarrement, même si ce n'est pas à dire dans une radio comme la vôtre, incarnait assez bien tu sais qu'en Finkielkraut, le plus beau compliment que je lui ai fait, Alain Finkielkraut, c'est que ce qui est merveilleux chez Finkielkraut, je m'éloigne parce que c'est plus intéressant. Finkielkraut, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que dans Le Gai Savoir de Nietzsche, il y a une phrase merveilleuse. Nietzsche dit, nous ne sommes pas des grenouilles pensantes aux entrailles frigorifiées, nos concepts, nous les accouchons dans la douleur. Et un jour, excessif, parce que Nietzsche, c'est Nietzsche, je dis à Finkielkraut, tu accouches tes concepts presque comme Nietzsche. Alors, bon, évidemment, un compliment comme ça, le mec tombe dans les pommes. Eh bien, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, les hommes politiques...
Ça partait de Nicolas Sarkozy, voilà c'est
bien,
ça le point de départ.
Ce qu'il faut, c'est que...
Il accouche dans la douleur aussi.
Eh bien, il est un bon orateur, mais ce qui est très étrange à voir, c'est pourquoi ils prennent cette dimension prêtre. Pourquoi tout d'un coup ils deviennent très graves? Parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'on leur demande... Moi, on me pose des questions, on me dit, jamais je pourrais faire le métier du maire d'Alice. Je ne pourrais pas régler les problèmes dès le matin, aussi complexes que les rapports Chine, machin. Comment se fait-il? Alors que moi, je m'interroge sur quel chemin je vais prendre pour aller à la mairie du 18e. Comment ils peuvent être... Allez-y.
Non, Il faut juste dire que ce film est formidable, qu'il montre la grandeur politique et qu'il montre que la grandeur politique, c'est aussi une somme de petites choses. C'est un conseil municipal avec ses points techniques, c'est un discours d'arrondissement, c'est une stèle qu'on dévoile. La politique, c'est la dignité des détails. C'est ce que montre votre film sur cet homme qui réfléchit à pourquoi il a perdu ses idées. C'est sur la philosophie, c'est aussi une réflexion sur la masculinité, puisque c'est un homme qui est empêché par toutes ces femmes qui sont autour de lui, son ex-femme, sa directrice de cabinet qui est moulée dans des jupes extrêmement sexy et qui le martyrise un petit peu. C'est tout ça dans ce film. Fabrice Luchini, il faut dire aussi, et encourager les gens à aller le voir parce qu'il est vraiment un film très français. Ce qu'on pourrait dire, l'art d'être français, c'est aussi un petit peu ça, Alice et le maire, vous trouvez pas ?
En tout cas, vous avez été la première à me dire ça à Cannes. Moi, c'est acquis. Hein. La guerre homme-femme, moi, j'ai jamais compris pourquoi il pouvait y avoir de la part des hommes. Enfin, voilà, les hommes, c'est le flottement. J'ai pas du tout un discours qui est contemporain. Vous avez dit que ça mettait en scène le fait de la fragilité du masculin. Cet homme ne sait plus qui il est, donc il ne sait pas qui désirer, il ne sait plus qui il est. Et donc, si le film en plus scénarise cette vérité évidente que elles sont supérieures. Voilà.
Il dîne avec son ex-femme et en sortant décide d'arrêter la politique. C'est ça en substance.
Voilà, en gros. En gros.
Alors, en plus de votre spectacle sur les écrivains et l'argent, vous allez en démarrer un autre, Fabrice Luchini, sur l'art du portrait qui s'intitule Conversation autour des portraits et autoportraits de Jean Co à Philippe Muret en passant par Philippe Lançon. Ce spectacle va démarrer au théâtre Marigny à partir du 7 novembre. Qu'est-ce qui se joue d'un mot, pour vous? Enfin, plusieurs.
Vas-y vite.
Qu'est-ce qui se joue dans l'écriture du portrait? Est-ce que c'est l'une des formes les plus difficiles, voire les plus extrêmes de la littérature?
Alors, tout est parti d'une phrase de Céline qui parle à Emmanuel Baer, le mari de Mireille, homme exceptionnel, qui aimait Céline alors qu'il était juif et tout, ce qui est hallucinant. Et Céline lui dit une phrase très rapide: je m'intéresse peu aux hommes, à leur opinion, etc. Ce qui m'intéresse, c'est leur trognon. Mais je les observe pas dans l'angle qu'ils me présentent. Je les viole en toute gentillesse, bien sûr, mais sans pitié. Et je trouve que c'est la plus belle définition. C'est pour ça que Proust est un des plus grands portraitistes. C'est pour ça que Saint-Simon... Mais j'ai abandonné Saint-Simon pour prendre l'homme le plus contesté, pour prendre cet homme ahurissant qui a été le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant 11 ans, Jean Co. Et Jean Co a fait les plus grands portraits de Mitterrand, les plus grands portraits de Gaulle. Une phrase sur De Gaulle, mais c'est pas cela que j'ai choisi. Une phrase sur De Gaulle: il n'avait pas d'os. Ses vêtements paraissaient flotter sur lui. Le regard, la peau du visage, les mains au bout de longs bras, ça flottait. Il flottait sur la France à coups de miracle, comme l'autre marchait sur les eaux. C'est comme ça tout le temps. Mais j'ai pas choisi Mitterrand, j'ai pas choisi Khrouchtchev, j'ai pas choisi Mao Tse-tung. J'ai choisi les trois personnages éminents du XXe siècle. Gaston Gallimard, le fondateur des éditions Gallimard. Jean Cocteau, le génie qui a écrit cette phrase: ça fait 40 ans qu'il me dévisage, il serait peut-être temps qu'il m'envisage. Et après, Jean Genet, le génie Jean Genet, qui disait à... Bon, parce que là, c'est un truc sexuel, faut pas exagérer ce matin. Et donc, je vous donne les premières lignes. Vous savez, le soir, j'ai 1200 personnes à la Porte Saint-Martin. C'est un spectacle qui est bouleversant parce qu'il y a Peggy, parce qu'il y a Marx, parce que après il y a la crise de 2008. Mais j'avais envie, une fois par semaine, à 18h, de faire un rendez-vous sans spectacle, sans show, sans élargissement théâtral. Donc j'ai décidé de faire un truc très pointu, très austère, et c'est les portraits. Et les portraits, ça commence par Gaston Gallimard. Il est décrit comme ça, hein. Gaston Gallimard, 94 ans, mort dans son édition, créateur de la grande édition. Et un nœud papillon, une tête rose et bleue de bon meunier. Pourquoi meunier? J'en sais rien. À cause des très fines pellicules qui brillaient sur le col de la veste du costume, toujours sombre. Je l'imaginais avec des sabots, une ample blouse, regardant calmement ses meules tourner. Attention, un riche meunier, attention. On lui apportait le grain, il devenait bon pain sous la croûte blanche de la couverture galette de livre, grâce à Maître Gaston. J'ai toujours connu Gaston, le même et éternel. On me disait à la fin de sa vie: tu vas voir Gaston, il est très fatigué. J'entrais dans le vaste bureau et je le trouvais comme d'habitude, à la fois prodigieusement endormi et éveillé. Voilà le génie français. Prodigieusement endormi et éveillé. La nuance, le génie. Et c'est ma Thérèse énorme que Jean Caux, l'ennemi, l'homme qui a abandonné la gauche, qui est devenu...
Votre panthéon anti-moderne, là, il se complète d'une nouvelle
Philippe
figure.
Muret, Jean Caux, bien sûr. Et Péguy.
Et Péguy.
Péguy, mais Péguy incontestable sur le socialisme, sur le judaïsme. Tu sais, une fois que t'as Péguy, t'es le king, hein. Parce que allez-y.
Non, il y a Philippe Lançon aussi. Vous avez choisi de lire un extrait du Lambeau. Quel portrait ?
Le portrait de sa chirurgienne, Chloé, parce que je trouve admirable de dire le 6 janvier 2017, vers 10h, je me suis assis une fois de plus dans un box du service de stomatologie face à une femme que je connaissais peu et qui avait pris une place démesurée dans ma vie. Chloé, ma chirurgienne. Et il y a un quart d'heure de Lançon. C'est pas un spectacle spectaculaire, c'est pour les austères, c'est pour les intellos, c'est pour les gens de gauche.
Oh. Yves est au standard et voudrait dialoguer avec vous, Fabrice Lucchini. Bonjour Yves, bienvenue.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour Léa, bonjour cher Fabrice. Eh bien, je voudrais vous demander, voilà, je ne suis pas juif, vous m'avez dirigé dans mes lectures avec Madame Bovary. Vous m'avez dirigé sur ces lignes, et quand j'ai lu ces lignes, j'ai ressenti un malaise. Et quelques mois après, j'ai entendu toute une émission dans 2000 ans de l'histoire, j'ai entendu Céline en interview qui disait des horreurs. Et vous me rendez très triste quand vous parlez beaucoup de Céline, et je n'arrive pas à comprendre comment vous ne différenciez pas, je ne sais pas comment le dire, l'œuvre de Céline et le personnage, et ça me rend triste.
Merci pour cette question. Fabrice Lucchini vous a écouté avec attention et vous répond.
Voilà, modestement, la morale Rimbaud était... Enfin, je ne vais pas contester. Céline était collaborateur. Enfin, Céline a voulu la victoire de l'Allemagne. Le parcours est indéfendable. Le problème, c'est que Céline est certainement le... Pour moi, modestement, l'inventeur d'une musique qui n'avait jamais été faite, c'est certainement l'écrivain majeur, Emmanuel Berl, qui était juif et qui savait tout, disait, il y a deux grands romans tempéraments romanesques, il y a Proust et Céline. C'est incontournable, parce que Céline a inventé toute notre langue. Même Libération n'existerait pas sans Céline. Céline, c'est un poète gigantesque, mêlé d'une horreur. Mais c'est une dichotomie, c'est comme si vous me disiez que vous ne voulez plus écouter Wagner, c'est comme si vous me disiez que vous détestez Dostoïevski, c'est comme si vous me disiez que Flaubert dit des choses affreuses sur les juifs dans sa correspondance. C'est très compliqué cette affaire-là, les hommes, il y a des hommes merveilleux, j'en connais, par exemple Lionel Jospin, eh ben, je l'aime beaucoup, je le rencontre à l'île de Ré, sur le vélo, eh bien Lionel Jospin est bien supérieur humainement à Louis-Ferdinand Céline. Le problème, c'est que l'art a à voir avec l'horreur, le grand artiste. Donc, ne soyez pas triste et puis lisez pas Céline si vous n'êtes pas sensible. En tout cas, merci de votre délicatesse.
Guy est en ligne. Bonjour, Guy.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour la matinale et merci. Donc, je voulais poser à Fabrice Lucchini, qui est un fervent admirateur qui est de Louis Jouvet. Il a écrit dans ses mémoires, résumant un peu le rôle de l'acteur, du comédien. Le comédien, l'acteur, n'est ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre. Dans quelle situation vous vous placez ? Près de l'acteur ou près de l'autre ? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à sortir de votre.
Voyez ? La thèse.
Merci Guy, Fabrice.
Cher Guy, très très de gauche. Cher Guy, la thèse de Jouvet, c'est qu'un acteur témoigne de lui-même et un comédien s'élève par une lente insinuation de dépersonnalisation à la hauteur où vit le personnage. Mais Jouvet disait que dans une représentation, on est à la fois acteur et comédien. Alors être acteur, c'est témoigner de soi. Ben ça, c'est pas intéressant tout le temps. Et être comédien. Alors j'ai envie de vous dire, parce qu'on me l'a dit pour Alice et le maire, j'ai essayé modestement de faire un travail de comédien et absolument pas d'acteur. C'est-à-dire que je me suis hissé à l'état dans lequel était le maire, et très rapidement, ceux qui ne m'aiment pas du tout pourront voir le film, parce que on oublie complètement ma petite identité. Être comédien, c'est le projet sublime d'un acteur. Mais c'est bien d'être acteur aussi.
Merci Fabrice Lucchini. Ça va, ça s'est bien passé sur Inter.
J'attendais plus d'hostilité pour les... J'ai un peu des clichés conservateurs et réac et médiocres.
Non, mais c'est sur Inter, moi, je vous pose la question. Vous n'avez pas senti une angoisse sourde?
Non, mais j'avais peur de...
Une impossibilité à penser. Tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé.
On n'appelle pas les pompiers de Radio France.
Je me rappelle de vous, boulevard Saint-Germain.
Eh ben oui, voilà.
Rappelez-vous.
Oui.
Et vous aviez dit, alors, Lucchini, tu as vu, Muret a gagné. Et ça me permet de vous répondre. Muret n'a pas gagné. Le festif se partage autant à droite qu'à gauche. Le festif, il est... Alors évidemment, la gauche l'a poussé à un très haut niveau. Mais Muret n'est pas plus un homme de droite que de gauche. D'ailleurs, c'est avec lui que je termine mes portraits avec cette phrase merveilleuse. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste. Bon, eh ben bravo.
Merci.
Merci Fabrice Lucchini, et revenez bientôt.
Oh ben vous êtes gentil.
Alice et le maire.
De Nicolas Parisère en salle demain matin.